Alors, donc, le cours d'aujourd'hui, c'est le sacrement de pénitence et de réconciliation. On verra qu'il a aussi beaucoup d'autres noms, sacrement du pardon, mais c'est un peu moins précis. C'est vraiment sacrement de pénitence et de réconciliation qui est plus officiel. Voilà, enfin, qui est le plus pertinent par rapport à ce qu'il est. Mais on verra au fur et à mesure un petit peu des noms. Alors, je suis partie de la phrase, ça tombe bien, parce qu'on était aussi sur Notre Père pendant l'adoration sur la... Alors, c'est une autre phrase, parce que je suis à la phrase d'après. « Pardonne-nous nos offenses, qui en fait est « Remets-nous nos dettes, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Donc, c'est notre prière quotidienne. Alors, le pardon, déjà, pour faire un petit aparté sur le pardon, c'est un acte de Dieu, peut-être l'acte suprêmement divin, puisqu'on vraiment dit la tribu de miséricorde, qui est très... celui de Dieu, quoi. Voilà. Mais il est aussi sur la relation entre hommes. Donc, il y a quelque chose que le péché détruit, qui sont les liens avec Dieu, mais aussi les liens entre les hommes. Voilà. Et donc, le pardon qu'on peut faire d'homme à homme est aussi ce qui rétablit l'image de Dieu abîmée par le péché. Donc, il y a plusieurs notions autour du pardon. Être miséricordieux, c'est demander miséricorde. Donc, c'est l'implorer. Et reconnaître aussi en celui qui a besoin que nous lui pardonnions notre propre besoin d'être pardonné. Donc, il y a beaucoup de réciprocité dans la demande de pardon. Alors, le sacrement de pénitence et de réconciliation est placé sous le signe de la miséricorde de Dieu, mais aussi sous celui de la grâce pour les pécheurs, donc la grâce au sens l'Esprit-Saint. Et cela sans minimiser la gravité du péché. Voilà. Alors, le sacrement, on pourrait se dire, du coup, on dit pardon dans la prière du Notre Père, on dit pardon au début de la messe, on a l'acte pénitentiel, donc pourquoi un sacrement en plus ? Et puis, on a la question, parce que la dernière fois, on a vu le baptême, si on a été complètement sauvé pendant le baptême, pourquoi est-ce qu'après, on a encore besoin d'un sacrement de pardon et de réconciliation, de pénitence et de réconciliation ? Donc, on va voir tout ça un peu au fur et à mesure du cours. Alors, je n'ai pas réussi à tout placer, hein, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. Mais bon, j'espère que ce sera à peu près, ça vous donnera une vue complète du sujet. Mon point de départ, c'est quand même que c'est un sacrement qui est mal connu et mal aimé de nos contemporains. Probablement parce qu'il est mal compris, qu'on lui fait poser des choses qui ne sont pas exactement ce qu'il est. Et je vous ai mis une phrase du pape François qui dénonce... dans l'image du confessionnal comme un pressing, l'hypocrisie de ceux qui croient que le péché est une tâche, qu'il suffit d'aller dans un pressing pour qu'on vous nettoie sec et vous redevenez comme avant, comme si on faisait nettoyer une veste ou une robe, on les passe à la machine et le tour est joué. Mais le péché est bien plus qu'une tâche, il est une blessure qui doit être soignée et pensée. Alors déjà, le péché n'est pas une tâche parce qu'en plus c'est un manque, c'est plutôt une absence de quelque chose qu'on a quelque chose de positif qui a une existence en soi. Et puis, c'est la phrase est belle, c'est une blessure qui doit être soignée et pensée. Et donc, il y a quelque chose d'un processus de guérison à faire. Voilà. Et donc, c'est pas juste quelque chose de baguette magique, mais vraiment de quelque chose qui est aussi dans un processus. Il prend du temps. Donc, l'objectif n'est pas d'être propre sur soi, mais d'être guéri. Il ne s'agit pas d'effacer une offense que d'annuler une dette que nous avons contractée faute de donner à Dieu ce à quoi il a droit. Si on reprend le péché originel, c'est bien ça, c'est qu'on devait reconnaître à Dieu sa toute-puissance, le fait qu'il était créateur et le fait qu'on était dépendant de lui en tant que créature. Et l'orgueil et le péché d'Adam et d'Ève ont fait que, en fait, on n'a pas reconnu à Dieu ce à quoi il a droit. On a estimé qu'on pouvait être sans lui. Et du coup, quelque part, on a contracté une dette que Jésus est venu annuler, enfin payer à notre place. Et donc, pour lequel nous, maintenant, on a une remise de dette. Alors, ce sacrement, il est plus que... Tous les sacrements sont nécessaires au salut, on est tous d'accord, mais ce sacrement, tout particulièrement, il est nécessaire pour notre vie de sainteté. Et puis, on va voir en quoi il est très atypique. C'est un sacrement très, très particulier parmi les différents sacrements. Et je vous donne déjà une première piste qui est que c'est celui où on a le plus de contributions, c'est-à-dire qu'on y met beaucoup de choses de nous, et on verra que c'est ça qui fait la matière du sacrement, donc qu'est-ce qui fait qu'il y a vraiment un sacrement. Et puis c'est aussi un sacrement qui nous concerne de notre intimité, enfin, il y a quelque chose de notre intimité qui se donne aussi. Alors repartons un petit peu de ce sacrement, pourquoi ce sacrement, alors que le baptême nous a sauvés. Alors on va d'abord faire un tour d'horizon de, alors très rapidement l'Ancien Testament, mais surtout le Nouveau Testament, Jésus, et puis après Saint Paul. Et puis après, on creusera cette question de pourquoi un sacrement de pénitence après le baptême. Alors dans l'Ancien Testament, on a quand même des actes de pénitence. C'est important de savoir que voilà, il y a une tradition là-dessus et qui est ritualisée. Donc c'est pas juste une demande de pardon individuelle, mais qu'il y a quelque chose qui est ritualisé, organisé. Donc on a les bon déjà dans le psaume, hein, ma faute je te l'ai fait connaître, je n'ai point caché mon tort. Donc il y a quelque chose qu'on révèle, un aveu. J'irai au Seigneur confesser mon péché et toi tu as absous mon tort, pardonné ma faute. Donc il y a bien un aveu, quelque chose, une démarche. Et puis en contrepartie, il y a Dieu qui pardonne. On a aussi des liturgies pénitentielles qui sont mises en place à l'époque de la monarchie. Je vous ai mis quelques références après l'exil. Il y a aussi des traces de confession collective des péchés dans Juge et dans 1 Samuel. Et un exemple typique, et peut-être que c'est intéressant de relire la première partie du livre de Joël, où on a toute cette démarche de forme de confession, d'acte pénitentiel, et puis qui se termine par un Dieu qui pardonne, donc une réponse de Dieu. Voilà. Donc c'est intéressant de lire que dans l'Ancien Testament, on a ces démarches-là qui sont assez... avec tous les ingrédients quand même. Et puis le livre du Lévitique au chapitre 16 qui rapporte également le rituel du jour de l'expiation. Donc c'est le jour du pardon. Hein. Rituel dont le moment le plus important était la bénédiction du grand prêtre. Donc il y avait une intervention, une bénédiction du prêtre qui valait pour absolution en fait. Sachant qu'avant il y avait eu une liturgie autour de l'aveu des fautes. Donc on a ce paysage de l'Ancien Testament qui est déjà fait de cette idée qu'il faut avouer sa faute, qu'il faut, avec une dimension aussi communautaire, une dimension explicite, un aveu, et puis qu'il y a une réponse de Dieu qui vient pardonner. Voilà. Alors, ce que Jésus a dit et fait, donc au point de départ de la prédication de Jésus, il y a un appel à la repentance. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Et la pénitence, elle est quand même très liée aussi à la conversion. Voilà, on se reconnaît... faire pénitence, c'est aussi un chemin de conversion. Donc il y a aussi cette démarche-là. L'attitude de Jésus envers les pécheurs, elle peut sembler déconcertante. Alors d'un côté, il se montre ferme, impitoyable. Si ta main ou ton pied sont pour toi une occasion de péché, coupe-les et jette-les loin de toi. Donc c'est pas forcément très... Voilà, c'est dur. Alors aussi la phrase très dure envers les pharisiens, où on se dit qu'ils n'ont pas beaucoup de portes de sortie pour être pardonnés ou se convertir. Serpent, engeance de vipère, comment pourrez-vous échapper à la condamnation de l'AGN ? Là, on est quand même... Voilà, ça ne peut pas dire que Jésus soit très miséricordieux dans ces passages-là. Et d'autre part, il manifeste bienveillance et tendresse face aux pécheurs qui écoutent la parole de Dieu ou reconnaissent sa faiblesse. Donc c'est ça aussi la différence, c'est l'attitude qu'on a qui fait que du coup, on est apte à recevoir un pardon ou pas. On est apte au sens pas digne, c'est pas une question ni dignité ni de dû, mais au moins on pourra l'entendre ou en faire quelque chose. Voilà, et donc là on a toutes les phrases après l'appel de Lévi, là dans la maison de Lévi, d'autres, où je ne suis pas venue appeler les justes mais les pécheurs à la fin du repas. Et puis avec Zachée, qui est aussi un des grands thèmes autour de la. Des grandes. Histoire qui parle beaucoup du sacrement de la pénitence, c'est le salut est entré dans cette maison car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Zachée est typiquement quelqu'un qui est perdu et qui fait un début de démarche. Jésus vient le récupérer et puis il va un cran plus loin lui dans sa démarche puisqu'il dit je remettrai le quadruple de ce que j'ai pris aux personnes. Donc ça, c'est un peu un aspect sur ce que Jésus fait en sens autour du pardon et de la miséricorde. Donc là, on n'est plus dans son action. Mais après, une autre chose, c'est que il a été un cran plus loin avec « tes péchés sont pardonnés ». Donc là, on est un petit peu plus spécifique sur notre sacrement de la pénitence. Donc il le fait par deux fois. Au paralysé de Capharnaüm, en Matthieu 9,2 et puis Luc 5,20, c'est le même épisode. Et puis pour la pécheresse chez le pharisien Simon en Luc 7, 47. Voilà. Tes péchés sont pardonnés. Donc là, il y a une vraie parole d'absolution qui est donnée à ces deux pécheurs. Après, on a la fameuse parabole du fils prodigue, qui évidemment est la parabole de la réconciliation par excellence. Et qui d'ailleurs est donné au moment où il est en train de... Jésus se justifie d'aller manger chez les publicains et les pécheurs. C'est intéressant que c'est à ce moment-là qu'il dit cette parabole. Donc pour dire que, bah oui, il est venu pour les pécheurs et qu'il explique comment le pécheur peut revenir. Voilà. Alors on pourrait faire tout un cours sur la parabole du fils prodigue, ce que je ne ferai pas, mais que je vous invite tout de même à méditer. Il y a énormément de commentaires dessus qui peuvent être très intéressants. Alors ensuite, on a la vraie institution, on va dire, du sacrement, c'est Jésus qui remet à l'Église le pouvoir des clés, ce qu'on appelle, c'est-à-dire le pouvoir de lier ou de délier, ou de retenir, ou de remettre, pardon, ou de maintenir. Donc c'est les clés de Saint-Pierre, donc c'est d'abord à Pierre, je te donne le pouvoir des clés du royaume des cieux. Quoi que tu lis sur terre, ce sera tenu dans les cieux pour lier. Et quoi que tu délies sur la terre, ce sera tenu dans les cieux pour délier. Ça, c'est en Matthieu 16, 19. Donc, en fait, il commence par dire ça à Pierre. Puis après, il emploie quasiment la même phrase, mais il la met dans un certain contexte pour les disciples. Donc, on a « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends en plus avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de deux ou trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. » Donc il y a ce pouvoir des clés qui est donné, mais aussi un peu une pédagogie de comment ça doit se passer. Donc il ne s'agit pas d'un arbitraire du ministre de l'Église à qui a été confié ce pouvoir, donc de tous les prêtres. Mais il s'agit d'un cheminement, d'une attention au pêcheur pour essayer de le faire cheminer et revenir. Et puis après, il peut y avoir des choses où effectivement, on peut, le prêtre peut dire que ça reste lié parce qu'il estime qu'il n'y a pas de conversion ou qu'il n'y a pas, ce qu'il faut pour pouvoir le délier. Voilà. Donc c'est quand même impressionnant de voir ce pouvoir qu'il a donné au prêtre, enfin à son Église. Voilà. Et après la résurrection, donc là on est passé chez Saint Jean, il dit « Recevez l'Esprit Saint ». Donc là on voit la connexion avec l'Esprit Saint, c'est lui qui est le garant du discernement et finalement c'est lui qui est l'objet de la grâce aussi, c'est lui qui va qui va donner la grâce et qui est la grâce. Donc à qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis, à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Jean 20, 22, 23. Donc on a les termes liés et déliés et puis chez Saint Jean c'est remis et maintenu et d'ailleurs vous voyez que c'est dans l'autre sens aussi. Mais globalement, c'est la même sens. Donc, quand on dit lier, délier, ça veut dire déclarer avec autorité que quelque chose est permis ou défendu en relation avec la loi de Dieu. Donc, il y a un sens juridique de cette lier, délier. Voilà. Et puis, il y a un deuxième sens, un peu plus large, qui est exclure de la communauté un pécheur notoire et le réadmettre lorsque celui-ci s'est corrigé et a satisfait aux obligations de pénitence. Donc, on a ces deux façons de regarder les choses qui montrent bien, d'ailleurs, le côté juridique aussi du sacrement de la pénitence. Il y a une forme de reconnaissance, il y a une forme d'offense qui peut être qualifiée et du coup une forme de pénitence qui peut être aussi en regard de ça et une absolution qui est aussi en regard de la démarche et de la contrition. Donc on a bien ce sens un peu juridique. Alors juridique, pas tant au sens comptable du terme qu'au sens de justice, voilà, d'équilibre. Et puis on a cette notion de par rapport à la communauté. Voilà, qu'on est dans la communauté, on est exclu. Et là, c'est beaucoup le lien avec le Saint-Esprit, puisque le Saint-Esprit, c'est celui qui fait la communion, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il est mentionné là. C'est lui qui permet d'être en communion, et donc en Église ou pas. Voilà. Alors, Jean 20, en fait, dit en clair ce que Matthieu 18 exprime en langage symbolique. Jean, c'est encore plus clair. Hein, voilà, remis les péchés ou maintenu les péchés, on voit bien ce que ça veut dire. Ce qui est important, c'est donc qu'on n'a aucune restriction. C'est tout ce que vous remettrez, tout ce que vous maintiendrez. Donc, il donne tout pouvoir à son Église. Mais en même temps, il ne dit pas que c'est automatique. C'est-à-dire qu'on a bien les deux pans. Il y a du lié, du délié, il y a du maintenu et du remis. C'est pas mécanique, quoi. Voilà. Et donc, si la contrition est jugée insuffisante, si voilà, les choses, l'Église, enfin, le prêtre a droit de ne pas remettre ou ne pas délier. Voilà. Et puis, il y a cette allusion à « sera dans le royaume des cieux », donc il y a ce lien entre ce qui est fait par l'Église sur terre et qui est déjà quelque chose du royaume des cieux, donc qui est déjà quelque chose de après, quoi. Donc c'est un pouvoir qui est sur terre, mais qui finalement a une résonance et une implication sur le ciel. Donc la vie éternelle, le royaume, etc. Donc on est quand même sur très important. Et en fait, l'Église, elle a ce pouvoir voilà, qui est ratifié dans les cieux. Donc ce qu'elle dit sera dans les cieux ratifié. Donc on a un pouvoir qui est quand même très important donné à l'Église. Et spécifiquement à l'Église, puisqu'on a vraiment Pierre, les disciples, les apôtres. Enfin, c'est très précisément à l'Église. Alors, que nous dit saint Paul ? Donc saint Paul, il a beaucoup parlé de la correction fraternelle. Il a aussi parlé de la mise en retrait des pécheurs, de la communauté. Il a parlé aussi d'exclusion aussi dans la communauté, et puis de la réconciliation et de la réintégration dans la communauté. Donc, saint Paul, il commence exactement comme ce qui est là. Si ton frère a commis un péché, va lui faire des reproches seul à seul. C'est ça. C'est l'attitude de la communauté à l'égard de celui qui est fautif, et d'abord dictée par la charité. Voilà. Donc, on essaye déjà de faire cheminer le frère, et c'est pas d'abord un jugement, c'est d'abord on le mène vers le salut, en fait. C'est ça qui est important. Et puis, le deuxième point qu'il met en avant, c'est le fait que cette correction, elle revient au responsable, mis par l'Esprit-Saint. Donc, c'est dans Galates. Frère, s'il arrive à quelqu'un d'être pris en faute, c'est à vous, les spirituels. Donc, le terme « les spirituels », c'est ceux qui sont dans l'Esprit Saint, donc c'est ceux qui sont des ministres, de le redresser avec un esprit de douceur. Voilà. Donc, ça, c'est le programme de Paul, qui est tout à fait en lien avec ce que Jésus a dit un peu plus haut aux apôtres. Donc, l'intervention de l'Église n'est pas uniquement d'ordre disciplinaire. De nouveau, on n'est pas que juridique. Elle touche des réalités proprement spirituelles. Dans sa lettre aux Corinthiens, Paul engage dans l'acte de pardonner le Christ et l'Église. « Quand vous faites grâce à quelqu'un, je le fais moi aussi. » Et moi, quand j'ai fait grâce, si j'ai fait grâce en quelque chose, c'était à cause de vous sous le regard du Christ. Donc, il y a une solidarité des ministres quelque part. Et donc, si un prêtre, un ministre, fait grâce, donc remet ses péchés à quelqu'un, et ben toute la communauté, donc saint Paul à une autre partie de la communauté, quelque part, ils ratifient ça et ils sont solidaires. Et donc, c'est un engagement de l'Église. Donc, ce n'est pas l'intervention d'une personne, d'un pasteur, mais c'est l'engagement de toute l'Église, parce que c'est finalement le Christ qui est là. Donc là, on a vraiment le cœur de l'économie pénitentielle de l'Église apostolique, telle qu'elle prend. Alors, on verra pour la forme, parce que ça, pour le coup, on va pouvoir en parler. Donc, voilà. Donc, on a déjà les ingrédients, un peu du ministère, de certains aspects du sacrement de réconciliation. Donc cette discipline pénitentielle de l'Église, elle se situe à l'intérieur du combat. Donc on est bien dans le combat sur terre, et ça nous permettra d'éclairer aussi le péché après le baptême. On est dans une terre de combat, et en même temps de la victoire définitive du Christ sur Satan, manifestée le jour de la parousie. Donc le Christ a définitivement vaincu Satan par la mort et la résurrection. Mais on est dans le combat. Donc il ne s'agit pas juste du simple agir moral. C'est le lieu où le combat spirituel se livre au cœur de chacun. Et donc, ce n'est pas seulement un combat pour bien faire, pour être quelqu'un de bien, au sens très humain du terme, mais c'est vraiment pour être... Le point clé, c'est la relation à Dieu, quoi. C'est restaurer le lien avec Dieu, c'est se remettre quelque part à dialoguer avec Dieu et à être fils de Dieu. Et donc de quitter ou de partir des filets du diable qui retient captif, comme dit son expression, qui est très imagée mais qui est très claire. On est pris par le péché dans des sortes de filets. Et ce que fait le sacrement de réconciliation, c'est que ça coupe ces filets, quoi. Ça nous permet de sortir de cette nasse qui nous enferme et qui nous empêche d'être libre, quoi. Enfin, qui nous entrave, quoi. Voilà. Puis après, il y a une phrase en 1 Timothée qui est intéressante aussi. « Ne décide pas trop vite d'imposer les mains à quelqu'un. Ne te rends pas complice des péchés d'autrui, garde-toi pur. » Donc là, on a bien l'imposition des mains qui fait allusion ici, non pas du tout à l'ordination ministérielle, parce qu'on est dans le rapport avec le péché, hein. On est bien dans ce cadre-là, mais à la réadmission des chrétiens pécheurs. Donc c'était vraiment les premières traces du rite de la réconciliation, c'était une imposition des mains. Et d'ailleurs, on le voit chez Cyprien, qui a écrit au IIIe siècle et qui lui aussi mentionne cette imposition des mains pour la réconciliation du pécheur et la réintégration dans la communauté. Voilà, donc dans saint Paul comme chez saint Matthieu, on a un rite d'exclusion qui est clairement posé à l'égard du chrétien qui porte atteinte à la grâce de son baptême. Ce que je vous disais, hein, s'il a refusé d'écouter les deux, trois, etc., il est exclu, considéré comme un païen et un publicain. Donc on a la même idée d'exclusion. Parce qu'on est, quand on porte une telle atteinte à la grâce de son baptême, voilà, à un moment donné, c'est des choix qui on est responsable de ça aussi. Et par contre, en vue d'ouvrir un champ de conversion, donc pour conduire à la réintégration. Donc il y a toute cette démarche, si le pénitent le veut, pour retourner et être réintégré dans la communauté ecclésiale. Donc chez Paul, on est très avec une perspective eschatologique. On parle beaucoup de la fin des temps. Prémisse du jugement dernier. Chez Matthieu, on est plus ecclésial, c'est vraiment la communauté, comment on est incorporé à l'ecclésial. Et puis chez Jean, c'est plus pneumatologique au sens Saint-Esprit, donc voilà, spirituel. Mais finalement, chez les trois, les connotations sont un petit peu différentes, mais on a la même tonalité et c'est très très consonant. C'est intéressant de voir quand même qu'on a plusieurs fois les mêmes phrases, quoi. Donc c'est quand même très très clair. Alors, l'Épître aux Hébreux, donc là, je la reprends pour le péché après le baptême. Alors, l'Épître aux Hébreux, elle présente quand même une position très claire et tranchée. Elle dit « Une fois que l'on a reçu la lumière, goûté au don du ciel, que l'on a eu part à l'Esprit Saint, que l'on a goûté la parole excellente de Dieu, ainsi que les puissances du monde à venir, si l'on retombe, donc là, il parle du baptême dans la première partie de la phrase, si l'on retombe, il est impossible d'être amené à une nouvelle conversion, alors que soi-même, on crucifie de nouveau le Fils de Dieu et on le tourne en dérision. » Donc quand on pêche après le baptême, il y a une forme d'impossibilité d'une autre conversion, puisqu'on a tellement vu, goûter à la lumière, expérimenter ce qu'était le salut de Dieu, et que ce nouveau péché où on tombe, en fait, c'est comme si on crucifiait le Fils de Dieu, et on se moque de son baptême, quoi. Donc avec ça, on se dit, c'est la contradiction objective de la faute grave avec l'état baptismal. La lettre aux Hébreux, elle est quand même assez enfermante, en disant, normalement, après le baptême, on ne peut pas pécher. Voilà, puisqu'on a vraiment eu salut. Et c'est prendre en acte le fait que le baptême nous transforme et nous donne vraiment le salut. Donc, il y a quelque chose d'éminemment cohérent avec ce qu'est le baptême, de dire que normalement, on ne devrait pas pécher après. Voilà, parce qu'on est sauvé. Donc, il y a cette idée de péché de chrétien qui est quelque chose de contre-nature, qu'alors qu'il était né de Dieu, comment il peut faillir encore ? Et donc, c'est les phrases aussi de Saint Jean, si je ne m'abuse. Non, oui, c'est ça, la première lettre de Saint Jean. « Quiconque est né de Dieu ne commet pas de péché, car ce qui a été semé par Dieu demeure en lui. Il ne peut donc pas pécher puisqu'il est né de Dieu. » Donc, ça, première de Saint Jean, très claire. Mais un tout petit peu plus loin. Alors, en fait, c'était même avant, pardon, c'est en 8, donc c'est avant. Je l'ai mis après parce que c'est plus logique comme ça, mais voilà. Il dit « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. » Donc c'est bien avec Saint Jean, c'est qu'il est très pragmatique. Donc en fait, il faut tenir les deux choses, c'est-à-dire d'un côté, on est complètement sauvé et que le baptême nous a complètement sauvés. Et en même temps, on a cette faiblesse qui fait qu'on peut encore tomber. Voilà. Dans Hébreux, non, mais parce que Hébreux, je vous ai cité qu'un passage, après il faudrait peut-être que je lise la fin. Mais oui, Hébreux, il est plus tranché. Hébreux, elle est particulière, la lettre aux Hébreux. Il est un peu dur. Mais ce n'est pas son propos, c'est pour ça. Donc, c'est une phrase. Parce que lui, ce qu'il veut montrer, c'est justement qu'on est vraiment sanctifié, etc. Donc, c'est pour ça qu'il reste sur ces thèmes. Voilà, exactement. Alors, tout ça a créé beaucoup de polémiques avec Luther. Je vous parlerai après de l'histoire du sacrement. Mais là, je voulais parler de Luther parce qu'il a... Pour lui, en fait, après le baptême, on est en même temps juste et en même temps pécheur. Parce que pour lui, si on est vraiment sauvé, donc le baptême a un réel effet, il nous a libéré du péché. Victor Pascal nous a acquis la réconciliation, et donc c'est une initiative divine, et donc on est pleinement sauvé. Et en même temps, pour Luther, il voit bien que on pêche tout le temps, voilà. Et donc il dit, pour lui, la solution, c'est on est à la fois juste et à la fois pécheur. Alors l'Église catholique, elle dit non, ça c'est pas possible. On est vraiment justifié. Donc ce qui reste, c'est, on est pécheur, oui, d'une certaine façon, mais pas comme ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas simultanément les deux, ou même intriquement, on va dire. Voilà, ce que dit saint Paul, et je pense que c'est ça la bonne piste, c'est qu'il dit, on est dans les douleurs de l'enfantement qui ne sont pas achevées. Les souffrances de l'apôtre et celles de l'Église font partie du long combat contre les forces du mal, de l'accouchement difficile du monde nouveau. Donc la vie nouvelle qu'on a reçue au baptême, elle n'a pas supprimé la fragilité et la faiblesse. On est dans un monde qui a été blessé par le péché. Et donc on a on garde cette fragilité, cette faiblesse, cette inclinaison au péché, alors ce qu'on appelle la concupiscence. Comme dit le père Giton, on a réussi à mettre dans le même mot tous des mots très moches. Donc voilà. Donc on voit bien ce que c'est. Et donc cette inclinaison au péché qui fait qu'on a comme cette idée d'inclinaison, moi je trouve c'est assez pertinent. Voilà, on a une tendance à pouf, c'est comme la gravité, on a une tendance à tomber quoi. Voilà, on est un peu avec la gravité du péché quoi. Donc on n'est pas complètement, c'est-à-dire qu'on est libéré, mais comme on est très faible, et ben en fait on n'arrive pas toujours à en vivre de ça. Et comme on est dans le temps et dans un cheminement aussi, parce qu'on grandit et on croit, on tombe sur le chemin. Quoi. Voilà. Et donc, ce que fait le Christ, et c'est vrai de tous les sacrements, en fait, mais éminemment vrai du sacrement de réconciliation, c'est qu'en fait, il nous aide à nous relever. Donc là, on peut penser à Jésus sur le chemin du calvaire. Voilà, il est tombé 3 fois, il s'est relevé 3 fois. Et il y a quelque chose de ça dans notre cheminement. Alors, c'est même plus que 3 fois, mais voilà, il y a cette chose-là qui est qu'on tombe parce que il y a des choses qui se passent, et le chemin est dur, parce qu'il y a des choses qui nous font bousculer. Mais ce qui nous donne, par contre, et ce que le baptême nous a permis de faire, c'est d'être incapable de se relever en demandant la grâce de Dieu, justement, aussi dans ce sacrement de pénitence, pour pouvoir nous relever et avancer. Voilà. Donc, il nous aide dans le combat. Et ça, c'est très important parce que non seulement il nous aide au sens où il nous prend la main et il nous aide à nous relever, dans un certain sens, c'est ça, mais en fait, plus profondément dans le sacrement de la pénitence, et c'est ça qui est très intéressant dans le sacrement et très atypique, c'est qu'il nous donne les moyens, nous-mêmes, de nous relever, en fait. Donc, il nous rend contributeurs de ce relèvement, en fait. Parce que, il nous aide à vraiment le faire, voilà. Donc, ça, c'est intéressant. Voilà. Et puis, on a cette histoire du temps qui est toujours, qui fait que rien n'est définitif. On est toujours dans le déjà et pas encore. Déjà là et pas encore. On est déjà sauvé, mais c'est pas encore complètement opérant. Parce qu'on est encore dans ce monde et encore en faiblesse, encore en chemin. Et que notre liberté, elle a besoin de croître, en fait. Elle est restaurée. Les filets, ils ont été coupés par les filets du pécheur, du Satan, ils ont été coupés par le baptême. Mais il y a des bouts qui restent, et puis il y a encore des... Et puis, de temps en temps, il y a des petites nasses qui se recréent, à cause de Satan. Donc, le sacrement de pénitence, c'est comme si on avait, la grâce qu'on a eue au baptême, ou la grâce du sacrifice pascal, on va dire, qui jaillit au fur et à mesure de notre croissance. Donc, c'est comme si, du côté de Dieu, c'était une sorte de jaillissement perpétuel, et puis que nous, ça permettait de le recevoir en temps et en heure, au moment où on en a besoin. Voilà. Et donc, Dieu, comme un père, ne cesse jamais de pardonner. Mais le propre du péché, c'est de nous rendre infirmes et incapables d'accueillir cette main tendue. C'est pourquoi il faut que le Fils aille nous chercher, fasse avec nous et pour nous le plus dur du chemin de retour. Dieu est toujours en attente d'un Fils prodigue qui veuille participer au festin des noces de l'agneau. Par le sacrement de pénitence, le Père accueille son Fils qui revient vers lui. Le Christ prend sur ses épaules la brebis égarée et la ramène au bercail. L'Esprit Saint sanctifie de nouveau son temple où il y habite plus pleinement. Enfin, tout cela se manifeste par une participation renouvelée au plus fervente à la table du Seigneur, où parce que le Fils revient de loin, il y a grande joie au banquet de l'Église de Dieu. C'est le rituel français, c'est le rituel français du sacrement. On verra plus tard que c'est... Il a été, je ne sais plus quelle année, c'est un peu plus tard. Et du coup, il précise tout ça. Et c'est assez intéressant parce qu'il y a plein de choses, et y compris, par exemple, cette phrase-là. Voilà. Donc, il y a cette idée de réconcilier. Voilà. On est au banquet, grande joie au banquet de l'Église de Dieu. C'est ce que dit Jésus aussi quand il est avec Simon, là, à la table de Simon. Il dit, voilà, on se réjouit c'est toutes les paraboles, on se réjouit de la brebis égarée qu'on a retrouvée, on se réjouit de la drachme perdue qu'on a retrouvée, etc. C'est toutes ces paraboles-là, il y a cette grande joie. Donc, Jean-Philippe Revel, qui est un prêtre jésuite, qui a fait un traité des sacrements, il dit, le sacrement ne se contente pas de me restituer dans mon état de grâce antérieure. Donc, on n'est pas dans le pressing, pour reprendre l'image du pape François. C'est pas juste on lave plus blanc et voilà. Et c'est comme si rien ne s'avait eu lieu. Non, c'est pas ça. Il y a quelque chose de nouveau. En fait, une dimension nouvelle de la grâce plus grande et plus profonde qu'auparavant. Donc, par les sacrements de pénitence, qui sont répétés, en fait, on fait grandir la grâce. Donc, quelque part, il nous accompagne dans une vie baptismale et ça grandit cette grâce. Voilà. Saint Ambroise dit des deux conversions que dans l'Église, il y a l'eau et les larmes, l'eau du baptême et les larmes de la pénitence. Alors, on dit aussi souvent sur les, que, c'est, que le sacrement de pénitence, c'est un baptême peineux, au sens où il y a de la peine, enfin, c'est difficile, c'est aride, alors que le vrai baptême, il est, lui, juste dans la joie, purement, on reçoit juste la grâce baptismale. Bon, la pénitence est un petit peu plus peineux. Voilà, j'aime bien le terme peineux, ça me fait rire. L'absolution me replonge, donc l'absolution reçue au sacrement de pénitence, me replonge dans le baptême, baptême des larmes, tiens, voilà, ou seconde planche de salut. À nouveau, j'entre dans le sacrifice du Christ, j'en reçois les mérites et suis recréée juste comme lors de mon baptême, mais avec cette dimension où j'ai grandi entre-temps et je grandis toujours. L'absolution représente à nouveau la grâce, elle transforme véritablement mon cœur, qui est toujours en transformation. Même si la chose n'est pas toujours immédiatement sensible, je peux poser l'acte de foi que je ne suis plus le pécheur que j'étais. Robert Huet, je ne sais pas qui c'est, disait, j'ai pris le texte de quelque part, « Je dois croire que je ne pêche pas deux fois de la même manière si j'ai reçu entre-temps le pardon. » Donc il y a ce côté d'espérance aussi que même si on a l'impression de confesser toujours la même chose, alors c'est plus moins théologique, plus spirituel, mais voilà, il y a quand même une transformation en acte. Donc avec le baptême, on a une transformation définitive, on est définitivement sauvé, on reste fragile et pas complètement autonome, on va dire, pour vivre cette liberté. De toute façon, on n'a pas à être autonome, on doit être avec Dieu, donc ça tombe bien. Mais voilà, et du coup, il y a le sacrement de pénitence, c'est ce qui nous fait grandir sur ce chemin pour vraiment vivre de cette liberté et la rendre réelle. Et la rendre opérante dans notre vie. Bon, j'espère que je vous ai fait un peu comprendre cette partie-là. Alors ensuite, on va rentrer dans l'évolution du sacrement. Alors c'est aussi un sacrement atypique parce qu'en fait, sa forme, elle a été très très différente selon les temps. Sa forme, elle s'est stabilisée plutôt tardivement. Donc c'est pour ça que vous avez 6 pages à la fin qui sont sur l'histoire du sacrement. Voilà, comme ça vous aurez plein de détails. Et je vous ai fait un petit tableau récap. Globalement, depuis le Concile de Trente, donc 1470, quelque chose comme ça, 73, enfin par là. 73, tout à fait, c'est bien, tout à fait. Beaucoup mieux. Il est à peu près resté pareil, sauf que le Concile Vatican II a pas mal remis en avant un certain nombre d'aspects. Donc il n'y a pas eu de changement de la forme particulièrement, mais il a mis en avant et il a ajusté un certain nombre d'aspects. Donc vous pourrez lire tout ça dans l'annexe sur l'histoire. Voilà. Donc ce qu'il y a à retenir, c'est que franchement, ça a beaucoup évolué. Et en même temps, il y a quelque chose de commun dans toute cette grande trajectoire. Donc je vous ai fait un peu des débuts de l'Église. La problématique, c'était qu'on était dans une église qui était martyre, les chrétiens étaient persécutés, et donc on avait le problème de l'apostasie, c'est-à-dire des gens qui avaient renié leur foi et qui après disaient oui, mais j'aimerais bien revenir quand même, et voilà. Donc on avait ce problème du péché de l'apostasie qui était très particulier, très dans cette époque-là. Et puis à aujourd'hui, on a une dimension beaucoup plus personnelle, spirituelle, de vie spirituelle et de vie baptismale. Donc la configuration, le contexte a complètement changé. Je vous passe un certain nombre d'étapes au milieu. Enfin, globalement, c'est un changement, beaucoup de contexte. Et comme c'est un sacrement qui, justement, on va le voir après, vient toucher notre intimité et en lien avec nous, il y a aussi qu'est-ce qui est bon et nécessaire pour que le peuple de Dieu vive ce sacrement et puisse en bénéficier. C'est aussi pour ça qu'il a changé sa forme. C'est parce qu'il est peut-être plus contextualisé, puisqu'on est plus impliqué dedans au sens personnel du terme, contributeur. Donc je vous ai mis les grands points qui avaient changé. Donc, premier temps de l'Église, c'est exceptionnel. C'est une seule fois dans sa vie, pour les péchés très très graves, genre apostasie. C'est uniquement l'évêque qui peut réintégrer et qui reçoit l'aveu. Donc c'est pas les prêtres, c'est l'évêque, tellement c'est important. Voilà, un peu comme la confirmation.
En ce qui concerne l'avortement,
c'est un péché grave, oui. Donc voilà.
C'est l'évêque,
un prêtre ordinaire.
Ah non, mais là je suis dans les premiers temps de l'Église. Maintenant, non. Donc dans les premiers temps de l'évêque, comme c'était vraiment réservé à des fautes très très graves, qui n'arrivaient qu'une seule fois, on avait droit qu'à une seule deuxième chance, on va dire. Donc certaines personnes, du coup, la reportaient. C'est comme le baptême, on le faisait tard en se disant, comme j'aurais pas, je peux pas, vaut mieux que je sois sur mon lit de mort quasiment. Et puis quand le baptême était un peu avant, du coup le sacrement de pénitence, on était très tardivement, vraiment sur son lit de mort pour se dire bon bah comme ça on arrive tout bien au ciel. Donc c'était une configuration très exceptionnelle parce qu'on était dans un contexte où on se disait dans le baptême, c'est lui qui fait tout quoi. Voilà. Et puis maintenant, donc on est sur un sacrement qui est habituel avec un principe de l'Église qui est de dire c'est une fois par an. Donc c'est comme l'Eucharistie, c'est à minima une fois par an. C'est d'où l'expression faire ses Pâques, c'est on doit se confesser et on doit communier. Voilà, c'est ça le faire ses Pâques. Donc c'est au moins une fois par an. Et c'est pour tous les péchés. Je ne sais pas si je le dis là, mais en fait, on peut confesser tous les péchés. Je vous dirai après, oui. Voilà, et c'est le prêtre donc, qui est habilité normalement. Il y a quelques cas où il peut demander conseil hein, en disant que je ne peux pas statuer, je réfère à l'évêque, mais bon, normalement, le prêtre habituellement est apte à décider. Dans les premiers temps de l'Église, on était sur une dimension assez extérieure ecclésiale, avec une forte manifestation de l'atteinte que le péché avait eue à la communion de l'Église au corps. Donc c'était une pénitence qui était visible, la personne était visiblement pénitente, donc avec un habillement, genre les sacs et la cendre, là, comme on voit Ninive, hein, c'est un peu cette idée-là. Voilà. Et donc ça pouvait durer un certain temps, elle était exclue de la communauté, donc elle ne participait pas à l'Eucharistie. Donc c'était quand même, on manifestait visiblement, enfin corporellement, que le péché l'avait coupé de la communion avec l'Église et avec le Christ. Et donc, il y avait ce temps de pénitence. Et ensuite, elle était réintégrée officiellement. Et pareil, c'était grande manifestation. Maintenant, on est sur un sacrement qui est très en dimension intérieure et privée, qui montre surtout l'atteinte de la sainteté individuelle et de comment on a coupé les ponts avec nos relations avec Dieu. Je ferai un bémol là-dessus parce qu'il y a quand même une grande dimension ecclésiale. Mais c'est les grands traits. Ensuite, c'était un sacrement qui prenait longtemps, parce qu'entre eux, alors le cycle, c'était aveu. Ensuite, il y avait une pénitence ou satisfaction qui était lourde. Genre, ça pouvait prendre 3 ans, ça pouvait prendre 6 ans. Il fallait faire un pèlerinage, il fallait faire je sais pas quoi, il fallait arrêter tel job. Donc, c'était conséquent. Et puis après, à la fin, on avait droit à une absolution qui réintégrait dans la communauté. Donc, c'était un processus, mais évidemment, c'est une fois par an, donc une fois par vie. Et pour des choses très graves. Alors que là, aujourd'hui, donc on a mis en avant la notion de contrition, qui est très en lien avec le fait que c'est aussi la dimension privée intérieure. Ensuite, il y a le cycle, c'est l'aveu, et ensuite l'absolution, et la pénitence, en fait, elle peut intervenir après. Donc on a une immédiateté du sacrement, même si, quand on vous donne une pénitence avant l'absolution, il est bien entendu que vous acceptez la pénitence, sinon il est hors de question qu'on vous donne l'absolution. Donc même si vous la faites après, c'est parce que vous vous engagez à la faire. Voilà. Donc il est hors de question de sortir du sacrement en disant bon, la pénitence c'est bon, maintenant je n'ai pas à la faire. Non, c'est pas le sacrement quoi. Voilà. Donc même si la pénitence a lieu après, l'absolution c'est quand même un tout et ça va ensemble. Mais par contre du coup il y a une forte immédiateté qui fait qu'on peut tout faire en un instant. Voilà. Par contre, la durée, elle est mise d'une autre façon, puisqu'on peut répéter le sacrement. Donc, c'est une autre forme de durée. Voilà. Ensuite, elle était plutôt en sens unique, c'est-à-dire qu'il y avait, un peu d'aveu, notamment, souvent d'ailleurs, en forme privée. Hein, donc, l'aveu n'était pas toujours public, etc. Même souvent pas public. Il était plutôt privé à l'évêque. Mais après, c'était assez rapide et c'était très vite une liturgie de la part de l'évêque, etc. Donc, on ne voyait pas bien la notion de ce qu'on voit maintenant, qui est un dialogue. Tout le sacrement de pénitence et de réconciliation se passe comme un dialogue et un échange. Voilà. Dans les premiers temps, on avait beaucoup l'idée de l'anticipation du jugement dernier, voire même du jugement individuel, c'est-à-dire qu'on anticipait et on disait « bon, il faut se préparer au jugement ». Et là, on est plus sur le côté médecin des âmes, le Christ qui nous soigne et qui nous permet de nous guérir du péché et de nous remettre. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours eu un sacrement de pénitence, en dehors et formel, avec un rituel, en dehors des multiples formes de pénitence, que ce soit ce qu'on a vu, la prière du Notre Père, les prières, l'acte pénitentiel au début de la messe, mais enfin, il y a plein d'autres moments, plein d'autres sacramentels où on peut demander pardon, prendre pitié, enfin voilà. Donc, il n'y a pas. Voilà, par contre, il y a toujours eu un sacrement formel avec un rituel et un certain nombre de choses à faire. Le rapport de la pénitence au baptême est vécu de manière nouvelle. Donc la confession réitérable inscrit la lutte contre le péché, même le péché grave, dans un exercice constant de la vie baptismale. Donc il y a une sorte de combat qui dure dans le temps et qui nous arme et qui permet qu'on puisse se vaincre avec la grâce. Donc la personne est particulièrement mise en valeur. La confession secrète deviendra le lieu. Alors, elle a souvent, l'aveu a quasiment toujours été secret. Hein. C'est rare les aveux publics qu'il y a eu, à part les apostasies. Mais de toute façon, c'est à la base, le péché était public. Donc, il n'y a pas de. C'est par définition, donc c'est autre chose. Mais sinon, par exemple, les choses d'adultère, c'était de la confession privée, enfin de l'aveu individuel privé auprès de l'évêque. Donc la confession secrète deviendra le lieu de la manifestation des péchés quotidiens. Alors c'est ça qui est très différent, c'est-à-dire qu'on est passé d'un péché extraordinairement grave à tous les péchés, on peut confesser tous les péchés, y compris des péchés véniels ou quotidiens, comme il est dit là. Mais faut savoir que ce qui est soumis au sacrement de la pénitence, c'est les péchés graves. Donc on n'est pas... C'est nécessaire pour les péchés graves, les péchés mortels, et c'est utile pour les péchés véniels ou les péchés quotidiens. Voilà. Mais ce qui doit être, par exemple, quand vous faites l'acte pénitentiel au début de la messe, ça guérit des péchés véniels, enfin des petits péchés. Voilà. Mais le sacrement de la pénitence peut quand même, vous pouvez quand même dire des péchés qui ne sont pas forcément mortels, et pédagogiquement, enfin c'est une bonne pédagogie du Christ, qui est toujours très pédagogique, voilà, ça nous aide à grandir et à combattre, voilà, parce que c'est aussi dans les petites choses que se préparent les péchés mortels. Voilà, mais c'est pas nécessaire, enfin, voilà, il y a utile et nécessaire. L'allégement de la pénitence et le fait qu'elle puisse être réalisée après l'absolution manifeste la gratuité du pardon de Dieu. Donc ça manifeste cette chose-là, c'est-à-dire que c'est pas un échange, c'est pas ma petite pénitence qui contribue à, c'est pas vrai, enfin c'est pas la mesure quoi. Hein. Donc c'est clairement Dieu qui m'a, c'est le Christ qui m'a sauvé sur la croix, c'est pas ma petite pénitence qui va changer quoi que ce soit. Hein. Soyons clairs. Par contre, ce fait qu'on ait cette pénitence qui est parfois très 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 légère, elle nous conduit à plus voir vraiment les conséquences dans nos vies et à faire un petit peu comme si c'était bon, c'est pas bien grave quoi. Voilà. Donc il y a une sorte de pardon très intérieur qui peut, voilà, qu'on peut manifester dans des prières. Et donc il y a beaucoup de gens, enfin moi je vois souvent dans l'évangélisation, hein, l'idée que ce sacrement il a aucune valeur, enfin ça a pas, c'est vraiment pas nécessaire quoi, enfin il suffit de demander pardon à Dieu quoi, ça n'a aucun sens d'aller le dire à un prêtre. Voilà. Le père Giton dit très justement, comme s'il suffisait de savoir théoriquement que Dieu est bon pour être guéri, il faut l'expérimenter quoi. Et en fait il y a quelque chose de concret dans les sacrements, quelque chose qui vient me toucher dans mon corps quoi. Donc dire pardon, oui, c'est une chose, mais c'est ce que je leur dis. Hein. Quand ils me disent, ouais, mais c'est facile, vous allez au confessionnal, et puis voilà, et je dis, bah allez-y, et puis vous verrez après si c'est facile. Voilà. Ça paraît toujours un peu dubitatif, cette phrase. Voilà, le signe sacramentel consiste désormais dans le dialogue secret de la confession et de l'absolution. Donc on a une sorte de dialogue entre ce que nous, on apporte, la contrition, l'aveu, et on verra plus tard la matière du sacrement, la contrition, l'aveu, notre acte pénitentiel, et puis l'absolution du prêtre. Voilà. Donc on n'a plus cette distension, parce qu'avant, finalement, quand la pénitence durait 3-4 ans, donc il y avait des choses intermédiaires, il y avait des choses qui se passaient, etc. Donc là, c'est beaucoup plus simple, c'est un dialogue qui est concentré, on va dire. Voilà. Par contre, on n'a plus cette idée de maturation dans le temps. Voilà. Mais donc c'est ce que je vous disais, hein, la réparation doit être acceptée par le pénitent avant l'absolution. Suppose un engagement ferme à être accompli par la suite dans un délai court. Voilà, et donc le caractère peineux est un peu dilué, même si, moi, je demeure convaincue que c'est déjà difficile d'aller avouer ses péchés, donc c'est déjà ça. Alors ensuite, le sens ecclésial du péché a diminué, parce qu'en fait, on ne le voit pas, c'est pas visible, on va se confesser souvent en dehors de toute liturgie, en dehors de choses, donc on a l'impression que c'est très en dehors de l'Église. J'accélère un peu. Mais en fait, on a une vraie dimension communautaire, puisque le péché nous a coupé de l'Église, en fait, de la communion avec l'Église aussi. Voilà. Et dans l'absolution, on a bien par le ministère de l'Église. Donc c'est bien clair que l'Église est là tout entière. Et je trouve très, très utile les veillées pénitentielles, où on va se confesser de façon individuelle, hein, on est clair, qui permettent de visibiliser cette prière de l'Église, l'écoute de la parole, etc., qui permettent à la fois de se préparer et aussi d'avoir cette prière. Voilà, on va se confesser. Finalement, c'est toute l'Église qui nous porte en tant que pénitents. Voilà. Donc, on va regarder le sacrement très atypique sous plusieurs aspects. Je vais un peu accélérer parce que je ne sais pas quelle heure il est, mais oui. J'ai un... Oui, c'est ça. C'est carrément que j'accélère. Alors, la matière du sacrement. Donc, ce sacrement, ce qu'il faut bien voir, c'est que... on avait vu avec, au cours numéro 2, avec saint Thomas d'Aquin, la matière et la forme. Donc, la matière du sacrement, ce n'est pas notre péché, soyons clairs. C'est l'aveu, enfin, la contrition qu'on a, l'aveu et la pénitence. Voilà, ça, c'est la part de ce que nous, on met dans la... Dans l'opération, donc c'est notre contribution à ça. Et l'absolution, elle donne sa forme, c'est-à-dire comme si elle, voilà, c'est elle capitulait, et donc elle finalise la chose, et donc pour qu'on soit absous. Voilà. Donc l'idée, c'est pas que l'homme est Dieu et à chacun à faire un bout de chemin, on va se relayer au milieu et puis c'est bon. Pas du tout. C'est que l'Église suscite les premiers pas d'une liberté chancelante et elle perfectionne peu à peu ses tentatives. Donc on est pris au sérieux, Dieu nous prend au sérieux dans notre désir d'avancer. Il nous élève au rang de partenaire responsable, capable de percevoir un peu de la gravité de sa faute. Il nous aide à clarifier ce qui est retenu, donc l'aveu en fait. Et c'est vrai que l'aveu, toute la parole, elle a toujours, et c'est vraiment, voilà, Dieu est parole. Mais la parole, le fait de dire les choses, c'est une manière de, aussi de comprendre son péché, de pouvoir aussi en être contrit. La volonté de faire un geste pour témoigner la reconnaissance est assumée dans la réparation. Donc au baptême, on a tout reçu gratuitement. Maintenant qu'on est un peu plus libre grâce au baptême, ben, en fait, Dieu, il nous demande d'être acteur. Il pourrait tout régler nous-mêmes. On est pardonné. Mais en fait, il nous aide à faire le règlement par nous-mêmes. Donc il nous aide, et finalement, il nous aide en nous faisant contribuer par ces trois choses à ce qu'on se soit pas... On soit collaborateur quelque part. Donc le pardon, on est clair qu'il vient que de Dieu. On n'a rien à voir, nos dispositions quelque part, elles préparent l'absolution, mais aussi elles causent l'effet de la grâce. C'est-à-dire que pour qu'il y ait sacrement, il faut aussi qu'on ait mis notre contribution. Sinon, le sacrement, en fait, il n'a pas lieu. Donc c'est aussi ça, quand Dieu il a confié son pouvoir à l'Église, il nous a aussi confié finalement un rôle extraordinaire, c'est qu'il nous met en tant que partenaire. Pour que ce soit sans nous, sans ce que nous on apporte, et ben en fait le sacrement il n'a pas lieu. Comme s'il s'interdisait de le faire lui tout seul à notre place. Voilà. C'est toujours pas la baguette magique. Voilà, et donc l'importance dans ce sacrement c'est la contrition. Et alors on va zoomer particulièrement sur cette contrition parce que c'est très important. Voilà. Concrètement, l'aveu, la contrition et la pénitence, c'est notre démarche qui est estampillée et qui fait quelque chose. Et c'est la démarche que Jésus a voulu, c'est d'aller voir un prêtre. Il n'a pas dit « vous demandez pardon à Dieu », il l'a dit aussi. Mais pour être vraiment pardonné dans le sacrement, pour être réconcilié au sens fort du terme et pour être relevé quelque part, et ben c'est avec un prêtre que ça se passe. Voilà. Alors la contrition parfaite et imparfaite. Donc si on avait une contrition parfaite, c'est-à-dire qu'on réalisait vraiment l'état du mal qu'on a fait, les conséquences, l'atteinte à l'amour de Dieu qu'on a fait dans notre péché, en fait, on n'aurait pas besoin du sacrement. Voilà. Donc si on arrivait à avoir une contrition parfaite, le sacrement n'aurait pas besoin d'être puisque... C'est ça qui fait, c'est que c'est comment, enfin, si la contrition elle est parfaite, ça veut dire qu'on a une vraie horreur du péché, qu'on réalise vraiment ce que c'est, et donc on peut effectivement comprendre le pardon de Dieu. Voilà. Comme on a toujours une contrition imparfaite, alors pardon, il y a un petit paragraphe sur la conversion de Christ devrait être du domaine du. Bon, alors ça je vais laisser passer parce que c'est. Voilà, le fait qu'on récidive dans la faute, on pourrait croire que c'est parce qu'on a une non-sincérité de la volonté. On dit non, on ne va plus pécher, puis en fait on retombe. Et parfois c'est même en sortant du confessionnal, donc c'est un peu désolant. Ce que nous montre le sacrement, c'est effectivement, c'est du coup que notre contrition, elle n'est pas parfaite. Parce que sinon, je pense qu'on ne retomberait pas. On serait vraiment comme le jour de notre baptême. Donc, ce que ça expérimente, c'est qu'on retombe. Notre faiblesse, elle est toujours là, quoi. Voilà. Et donc, on peut se relever. Voilà. Donc, cette contrition imparfaite, eh ben, elle est suffisante pour obtenir le pardon sacramentel. Donc, Jésus, non seulement il nous dit, c'est toi qui mets dans la manette, c'est toi qui viens avec ta contribution, mais en plus, il nous dit, je sais que c'est pas parfait, je sais que tu sais pas réaliser le péché, mais ça suffira. Voilà. Il fait quand même beaucoup, beaucoup. Voilà. Et finalement, c'est le sacrement qui va parfaire notre contrition. Donc, c'est en sortant du confessionnal et en ayant effectué notre pénitence que finalement, notre contrition, elle a été plus parfaite, en fait. Elle a été rendue plus parfaite. Donc, le pécheur est incapable de la contrition parfaite. Parce qu'en fait, on voit toujours le péché. Finalement, on voit pas trop. On voit plutôt les conséquences du péché, que ça me fait du tort, que bah oui, c'est pas exactement ce qu'il faudrait, que mon image en a pris un coup, etc. Mais on voit pas vraiment le péché dans son horreur, qui est vraiment le fait qu'on est coupé de Dieu, quoi. Voilà. C'est exactement le cas du fils prodigue dans la parabole. Il dit, je vais revenir parce qu'il a faim, en fait, d'abord. Et il dit, je reviendrai comme un ouvrier, quoi. Voilà. Donc il n'a pas bien compris, en fait. Il ne sait pas ce que c'est que le pardon. Et c'est quand il est dans les bras du père et que le père lui dit, ben, mettez l'anneau à son doigt et on va faire un banquet et remettez-le la robe du fils, que quelque part, sa contrition, il se rend encore plus compte de ce qu'il a, de comme il était bête d'être parti, quoi. Voilà, et d'avoir fauté. Donc c'est là où il y a le parachèvement. C'est très intéressant, toujours, cette parabole. Alors, le dialogue entre le pénitent et le prêtre. Alors, pourquoi on se confesse à un prêtre ? Donc ça, toujours cet aspect-là, c'est que Dieu, il est très lucide sur nos besoins. On est incarné, on est dans un corps. Et donc il faut que ça s'incarne aussi. Notre humanité, elle voit des choses visibles. Et donc, il faut que ce soit visible aussi, ces sacrements. Donc, le fait de s'ouvrir au prêtre pour recevoir en lui le pardon de Dieu est un acte profondément humain, parce que ça nous met au contact de l'humanité de Dieu manifestée en son Fils, et le prêtre est in persona Christi. Donc on est vraiment dans cette relation, relation qui s'instaure entre le pénitent et le ministre du sacrement. Et via le ministre du sacrement, il est en face du Christ, quoi. Donc le prêtre est comme un signe de l'autre divin, voilà. Mais c'est pas seulement au moment où il dit les phrases d'absolution, en fait. C'est pendant tout le temps de la confession, enfin, tout le temps les différentes étapes, et dans l'écoute, et dans le dialogue, etc., qu'il nous guide aussi. Alors, c'est pas obligatoire qu'il nous donne des recommandations et des aides, mais en tout cas, son écoute doit être... Parce qu'il doit quand même discerner s'il peut nous remettre ou pas les péchés. Donc, il y a quand même, de toute façon, une écoute qui est... Voilà. Souvent, il pose des questions pour clarifier, des choses comme ça. Alors, ils le font pas toujours, c'est pas nécessaire, mais... En tout cas, il y a cette attention et cette histoire de dialogue pour être apte à juger. Voilà. Donc, il ne s'en remet pas juste au Saint-Esprit. Il le fait en tant qu'homme aussi. Donc, il est dans l'écoute et le conseil. Voilà. D'ailleurs, on le sait très bien, quand on a une confession où le père ne nous dit rien, c'est toujours un petit peu déstabilisant. On aimerait bien qu'il nous dise quelque chose. Voilà. Et c'est très humain, ça, justement. Donc, en même temps, le prêtre, il est notre altérité avec le Christ. Et en même temps, il nous fait prendre aussi conscience, parce que le fait de le dire et de réaliser qu'on est en train de le dire au Christ, en fait, c'est aussi nous prendre les lunettes du Christ, quoi. Et donc, lui, il voit aussi différemment le bien et le mal, ce qu'on a dans notre conscience. Donc, il peut nous faire aller beaucoup plus loin que ce que nous, on fait tout seul. Et en même temps, c'est un prêtre qui est un homme, voilà, comme nous, pécheurs, qui se confesse lui aussi, voilà, et que Dieu assiste de sa grâce. Et donc, une très très bonne pratique, c'est de prier pour son confesseur avant d'entrer dans le confessionnal. Parce que c'est une lourde charge, quoi. Et on comprend bien le curé d'Ars qui disait, c'est la priorité du prêtre de confesser, parce qu'il y a quelque chose de tellement... qui vient rejoindre notre humanité, dans notre intimité, qui est dans notre au cœur même du péché et de la grâce et du pardon et de la réconciliation avec Dieu, que vraiment on est au centre de tout là. Et donc du coup, il faut prier pour lui. On peut prier aussi après, et il peut discerner et donc finalement ne pas donner aussi l'absolution. Donc il a ce pouvoir là, donc il a cette objectivité là, et c'est important aussi d'avoir ce vis-à-vis et de cette distance. Et finalement, du coup, Jésus, il est des deux côtés du confessionnal. Il est avec nous parce qu'il nous aide dans notre démarche, et puis il est du côté du prêtre qui va nous donner l'absolution. Et c'est aussi pour ça que le secret de la confession est absolu. C'est parce qu'on est dans le domaine de l'intimité, et que pour que ce dialogue soit réel et aille au fond des choses, et il faut que ce soit aussi dans le fait que ça reste entre nous, quoi, et que ça reste entre Dieu et nous, et que ça sortira pas, parce que sinon on n'est plus dans le même exercice. Le sens de la pénitence. Donc, Ce qui est clair, c'est que ça nous aide, c'est un remède et une libération pour l'avenir. Donc ça nous fait grandir la pénitence. Au sens où le fait de ça nous aide à réaliser toujours plus que notre péché est un péché et que nous nous coupons de Dieu et qu'il faut changer ça, il faut se transformer avec la grâce, accepter la grâce, etc. Donc il y a cette dimension-là. Et puis il y a la dimension que on sait bien qu'on est un corps, que voilà, c'est une faiblesse, et donc nous l'ancrer dans notre corps aussi, la pénitence, même si c'est juste une prière, c'est une manière de contribuer à se remettre dans la bonne perspective et dans la relation avec Dieu. Voilà. Donc on a ce moyen, par la pénitence, d'unir notre propre mortification corporelle ou spirituelle, accepter, à défaut voulu, je ne sais pas, mais en tout cas accepter, à la passion de Jésus qui nous a obtenu le pardon. Voilà. Donc on a toujours des blessures du péché, de l'imperfection de l'amour qui imprègne le repentir. Et donc la pénitence est aussi une manière de nous aider à combattre ce foyer d'infection, j'aime bien, quel péché, qu'il faut toujours combattre par la mortification et la pénitence. Ce que dit Saint Jean-Paul II. Toute l'encyclique Réconciliato et Pénitentia, vous en avez pas mal d'extraits après, et puis dans l'histoire, est très utile pour ça. Donc en fait, la satisfaction, ou la pénitence, c'est le même mot, c'est satisfaire à notre obligation, est l'acte final qui couronne le signe sacramentel. Donc c'est pas un prix à payer, on est clair, le Christ, il a tout donné gratuitement, c'est sur la croix que ça se passe. Nous, c'est rien du tout, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Mais cette goutte d'eau, elle aide à dire qu'on est d'accord, on veut cette vie nouvelle. Voilà. Et en fait, si la pénitence peut être petite, c'est probablement parce qu'on a des frères et sœurs qui prient pour nous dans l'Église. Donc profitons-en et remercions-les. Réconciliation avec Dieu et avec l'Église. Donc c'est le principal fruit du sacrement, c'est qu'on est réconcilié. Et c'est pour ça que le beau mot et le sacrement de réconciliation est très beau. Puisque c'est vraiment ce qui se passe. On est réconcilié avec Dieu, pour ainsi dire comme conséquence d'autres réconciliations qui portent remède à autant de ruptures causées par le péché. Le pénitent pardonné se réconcilie avec lui-même dans les profondeurs de son être. Et on sait que le péché, souvent, c'est aussi vis-à-vis de nous-mêmes, on se juge indigne, il faut qu'on se réconcilie avec nous-mêmes. Où il retrouve sa vérité intérieure. Il se réconcilie avec ses frères, agressés et lésés par lui en quelque sorte. Il se réconcilie avec l'Église. Il se réconcilie avec toute la création. La prise de conscience de tout cela fait naître chez le pénitent, en termes de célébration, un sentiment de gratitude envers Dieu pour le don de la miséricorde qu'il a reçu. C'est à cette action de grâce que l'Église invite. Donc c'est l'idée que c'est la réconciliation, mais jusqu'au cosmique, quoi, parce que c'est la phrase de Colossiens, voilà, toute la réconcilier en lui toute plénitude et de tout réconcilier par lui et pour lui sur la terre et dans les cieux. Voilà, ayant établi la paix par le sang de sa croix. Donc c'est vraiment ça, la réconciliation, elle va jusque là. Donc la réconciliation, elle nous restaure. Je vais passer au paragraphe d'après. La réconciliation restaure en nous la liberté des enfants de Dieu. Elle est source de joie. C'est très important. On pourrait croire que parce qu'on confesse, on voit son péché, etc. En fait, on marine là-dedans et que c'est idiot de regarder son péché. Il vaudrait mieux aller de l'avant, etc. Pas du tout. Parce qu'en fait, on est vraiment libérés. Et donc ça, il y a une forme de joie. De comprendre ce qu'est-ce qui ne va pas, de se dire qu'avec la grâce de Dieu, on va réussir à se relever et à repartir du bon pied, à se transformer, qu'on avance sur le chemin de sainteté. Et donc ça, c'est source de joie. Voilà. Et puis parce qu'on est à la bonne place, c'est qu'on devient enfant de Dieu et qu'on est restauré dans notre place qui est d'être fils et fille de Dieu. S'approcher de la sainteté de Dieu, c'est retrouver sa propre vérité intérieure, troublée même bouleversée par le péché. C'est se libérer au plus profond de soi-même et par suite recouvrer la joie perdue, la joie d'être sauvé, que la majorité de nos contemporains ne sait plus apprécier. Le sacrement de pénitence fortifie notre foi dans le salut, dans le nom du Christ qui nous sauve. Et parce que le sacrement de pénitence et de réconciliation nous demande notre contribution effective et rétablie dans une relation d'alliance toujours nouvelle avec Dieu, il est proposé comme préparation de tous les autres sacrements. Voilà. Et c'est aussi pour ça qu'il est, évidemment pas le baptême, puisque le baptême... C'est le baptême. Mais pour tous les autres, c'est vrai que c'est souvent avant un mariage, avant même la confirmation, avant... pas très sûr, mais il y a du rite pénitentiel dedans, mais ça arrive, souvent il y a en tout cas c'est pas obligatoire, mais parce que c'est une forme de préparation déjà de se remettre en vérité avec Dieu, de se retrouver enfant de Dieu, et du coup c'est encore plus facile après d'accueillir la grâce du sacrement qui a des tonalités différentes, même si tous les sacrements nous apportent le salut. Il y a un point aussi sur l'anticipation du jugement. C'est dans le sacrement de pénitence et de réconciliation, finalement, ce qui se passera au jugement Lié et délié, c'est ce qu'on disait tout au début avec la phrase de Jésus, sera lié et délié au ciel. Donc il y a quelque chose de notre anticipation du jugement qui se passe là. Et donc c'est pas que ça, ça entrave la suite, puisqu'on est encore dans le temps et donc on a encore toutes les chances de se convertir. Au contraire, on a le temps. Dieu est patient. Mais en tout cas, c'est quelque chose de ce jugement-là. Voilà. Parce qu'on est vraiment sur la notion de réconciliation avec Dieu et finalement de vie et de mort. Voilà, tout simplement. Et l'homme même pardonné, donc même après sacrement de réconciliation, demeure toujours suspendu au jugement du salut du Christ lors de son retour en gloire au dernier jour. Donc on a toujours ce jugement final qui viendra parachever ces jugements, tout petits jugements sur notre route. Alors j'espère vous avoir fait donner envie du sacrement de pénitence et de réconciliation. C'est vraiment le plus humain des sacrements. Parce qu'il est, il y a à la fois la dissymétrie complète entre notre pardon, ce qu'on apporte, nos faibles moyens, et puis l'absolution qu'on reçoit de Dieu. Donc on est complètement dans quelque chose de dissymétrique, donc c'est un sacrement impossible. Dieu nous met à son niveau, en fait, dans le sacrement de pénitence. Donc c'est vraiment impossible. Voilà, mais c'est ce qu'il veut, donc il peut. Donc c'est un sacrement qui est vraiment, qui manifeste le caractère théandrique, donc divino-humain de l'action de Dieu. Qui, depuis l'incarnation, suscite en nous une réelle collaboration à sa grâce. Parce qu'il est vraiment cette action divine en l'homme, il ne se borne pas à constater en lui une attitude pénitente, il la crée. Donc c'est pas juste qu'il l'a estampillé en disant « Ok, t'es bien pénitent », mais vraiment, il suscite en nous, il la fait grandir, il la rend plus parfaite, quoi, voilà. Pour qu'on soit à, pas égalité, on n'est jamais à égalité avec Dieu, mais qu'on soit un partenaire, quoi, voilà, dans ce dialogue et dans cette relation. On soit des fils, quoi, fils et filles. Une petite phrase de Benoît XVI pour finir. Le sacrement de pénitence qui revêt une telle importance dans la vie du chrétien rend présente l'efficacité rédemptrice du mystère pascal du Christ. La confession devient ainsi une renaissance spirituelle qui transforme le pénitent en une nouvelle créature. Seul Dieu peut opérer ce miracle de grâce et il l'accomplit à travers les paroles et les gestes du prêtre. Et vraiment, je vous invite à méditer, donc tout ce que je vous ai mis après, voilà, où il y a plein de choses. À la fois pour effectivement rendre grâce à Dieu de cet incroyable cadeau qu'il nous fait dans le sacrement de réconciliation, l'incroyable part qu'il nous donne, et en même temps l'incroyable pouvoir qu'il a donné à des prêtres, et donc il faut beaucoup prier pour eux, pour qu'ils peuvent finalement se substituer au jugement du Christ, lié et délié pour les cieux. Voilà. Et donc on peut se nourrir de ce sacrement, et en plus on a la chance, on peut le faire souvent. Voilà. Toute la chance. Par rapport au premier temps de l'Église où c'était une fois par vie.
Ça dépend où on est.
À Paris, on a fait.
Comment ça, ça dépend où on est?
Ouais. Il y a des endroits où il faut retrouver un confesseur.